autre portrait de Tioca Tioca cette semaine sur RCFM, un duo d'artistes. Come si dice, mezzi corsi, mezzi francesi, corsi che si sono scontrati, artisti. Je vous laisse vous présenter, honneur aux dames, Andiolina.
Mi chiamo Andiolina, sono corsa, di Saridorcino, native d'Ajaccio.
Oui, voilà. Originaire de Saridorcino, native voilà. d'Ajaccio, comme Napoléon.
Maman est née à Saridorcino. Un amour infini pour Bastia depuis toute petite.
C'est vrai.
Donc nous avons une résidence secondaire à Bastia.
On a commencé par venir à l'hôtel ici et quand on est tombé, en plus c'est un quartier qu'on adore, quand on est tombé sur cet appartement, on a sauté dessus.
Sans indiscrétion, à l'hôtel, petit aparté en amoureux, ben oui.
J'adore les hôtels, vous avez raison, et de plus en plus
vous faisiez des escapades
des
du sud au nord.
De l'amour, voilà. De l'amour.
Oui. Alors Jean-Claude, vous êtes des artistes tous les deux.
Depuis, nous travaillons ensemble depuis 40 ans.
Depuis 40 ans.
Déjà ? Oui,
oui, depuis 40 ans. On a commencé très jeune, je suis précoce comme tous les Corses. Et surtout, nous étions les premiers à signer ensemble. Donc nous étions le premier couple européen à écrire de la musique à deux. Et ça a posé beaucoup, beaucoup de problèmes parce que le monde musical est un monde misogyne. Et heureusement, j'ai eu le meilleur
des... Un peu machiste, disons.
Oui. Oui, mais enfin, les femmes en général, c'est une représentation, voilà, caricaturale, mannequin, machin. Musicienne et compositrice, c'est trop. À l'orchestre, c'était trop.
Maintenant c'est passé.
Mais oui, non, mais il y a 40 ans. Donc il a fallu que je m'impose grâce à Offenbach à côté, là.
À Jean-Claude.
Jean-Claude. On a formé un duo inséparable et personne ne savait qui faisait quoi.
Un peu comme Peter et Sloan, mais version,
voilà.
Version
créateur. Créateur, vous savez que d'ailleurs l'auteur de Besoin de rien, envie de toi était corse. Hein, c'était Marie Casanova, que vous avez peut-être connue.
On en a de très très bons en Corse. On a des pépites. Et moi je suis autodidacte au départ. Dieu merci, avec une maman pianiste, un grand-père qui chantait les paillets avec ses frères. Donc nourri par la langue corse, bien parlée, parce que la langue corse est une musique. Et quand j'ai rencontré Jean-Claude...
Vous êtes rencontré à Paris ou en Corse avec Jean-Claude ?
Paris.
Je venais déposer mes partitions, très simplement écrites...
À la SACEM.
À la SACEM, très simplement écrites au piano et à la guitare. Et Jean-Claude a voulu qu'on signe ensemble parce que je suis très très mélodiste. Et souvent mes mélodies étaient choisies d'emblée pour les pubs. On a fait beaucoup de pubs.
Vous avez travaillé sur la publicité, sur le cinéma, oui.
Voilà, il a fallu que je sois compatible avec les diplômes de Jean-Claude. Donc j'ai passé des mises en loge à la SACEM, ce qui était très très bien. Très très bien parce que ça nous donnait le goût de l'effort, le goût de l'envie d'apprendre et de se perfectionner évidemment.
J'ai fait les classes de composition au Conservatoire de Paris, classes de piano, de guitare classique. À 11 ans, j'avais dit à mes parents, je vais faire de la musique de film.
Vous étiez déjà parti pour...
À 11 ans, oui. Ma mère est allée voir le directeur conservatoire de l'époque et qui lui avait dit, ma pauvre dame, mais tout le monde doit faire de la musique de film. Donc ça l'avait vraiment découragé. Et j'ai eu la chance de rencontrer une femme qui venait de Paris, qui est devenue directrice du conservatoire de Tourcoing, puisque je suis du Nord. Et elle m'a mise en relation avec Tony Aubin, qui était professeur au conservatoire de Paris. J'ai passé le concours d'entrée, je suis rentré dans sa classe pendant 3 ans, conservatoire de Paris, classe de composition. J'ai fait mon service militaire. À l'époque, j'ai rencontré à 19 ans.
C'est la
conscience. Oui, j'ai rencontré Claude Lelouch. J'étais pianiste au bar d'un casino en Normandie. Et là, il y a un monsieur que je connaissais pas qui me dit vous avez joué hier une musique que je connais pas, qu'est-ce que c'est ? Je joue 2-3 musiques. Oui, c'est ça. Il me dit, est-ce que c'est pris ? Je dis non, j'ai composé ça il y a 2 jours.
Oui, c'est libre, oui.
Il me dit, vous faites la musique de mon prochain film.
Ah bon ? Oui.
Donc c'était Robert et Robert.
Mm-hmm.
Là-dessus, ouais. Je pars faire mon service militaire. Il me dit, écoute, je vais te faire présenter au cinéma des armées, c'est pas la peine que tu fasses le guignol en tant que soldat. Donc je vais te présenter au commandant de du cinéma des armées. Et donc c'est comme ça que je suis entré au cinéma des armées.
Alors c'est là que nous nous rencontrons.
Oui, oui, oui.
Par un ami corse qui n'était pas un ami en fait au départ, qui m'a un peu dragué à la SACEM. Non mais à la SACEM et à la SACEM, tout le monde est dans la séduction, c'est très sympa et tout. Et puis j'étais
oui,
très
oui,
jeune.
Oui.
Hein, donc et ce garçon-là qui m'a était en train de faire une pub avec Jean-Claude entre deux films de l'armée. Jean-Claude, qui était souvent chez lui, faisait donc ce type de travail. Et Luc Périgny, qui venait d'être césarisé, c'est le monsieur qui nous a présenté, me dit, écoute, fais-moi écouter ce que tu fais. Donc je lui fais écouter et il me dit, écoute, ta mélodie là irait très bien sur la pub qu'on est en train de faire avec un garçon qui s'appelle Jean-Claude Nachon. Moi, j'avais pas envie de faire de pub. Hein. Il m'a présenté, on s'est rencontrés, on ne s'est plus quittés.
C'est fou ça.
Oui.
Jean-Claude, belle histoire.
Ah, c'est une histoire formidable.
Oui, c'est une histoire formidable.
Oui, parce que ça a été une rencontre personnalité, mais en plus de musique.
Mais Jean-Claude a oublié de dire qu'il avait fait la Casa Velázquez à Madrid, et ce qui correspond à Villa Médicis. Hein.
Villa Médicis, donc, voilà.
J'arrivais.
On n'y rentre pas comme on veut.
C'est la Villa Médicis, mais à Madrid.
À Madrid, d'accord.
Ça a été un sociétaire assez long, hein, là, Casa.
Qu'est-ce que vous avez appris là-bas? Beaucoup,
j'ai
j'imagine.
J'ai appris la langue, déjà.
Oui, espagnol.
Je suis arrivé en Espagne, on ne parle pas un mot d'espagnol. Et puis, j'ai beaucoup voyagé en Espagne. Et puis, c'est une maison où il y a tous les postes artistiques qui sont présentés. Il y a des peintres, des sculpteurs, il y avait un compositeur à l'époque, c'était moi.
Futur cinéaste.
Et donc, ça permettait de rencontrer des artistes de branches que je ne connaissais pas. Donc, il y avait des peintres qui sont devenus très, très connus. Et c'était dans un palace absolument formidable.
Rencontre avec Claude Lelouch, vous me disiez, Andioulina, pour le film
Robert et Robert. Et on a appris récemment que c'était une période où il avait eu un grand creux et c'est un film qu'il avait relancé.
D'accord.
C'est un film avec Charles Denner, avec Jean-Claude Brialy, Régine.
Et qui ne ressemble pas au cinéma de Claude Lelouch.
Il y avait Jacques Villeray aussi.
Ça m'a intéressé. Quand j'ai rencontré Claude, je lui ai dit que je n'aimais pas forcément son cinéma, que j'aimais bien professionnel. Quand on s'aime bien, on se dit tout, c'est vrai. Et Claude est notre ami, nous voyons régulièrement. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui a donné cette chance à Jean-Claude.
Oui. Qu'est-ce qui devient justement?
Là, il tourne le remake.
Qu'est-ce qui devient
d'un homme et une femme là.
Moi, ce que j'aime bien chez Claude, c'est des films qui sont pleins de poésie et qui ne parlent pas forcément de lui et de son entourage. Mm-hmm. Itinéraire d'un enfant gâté, par exemple.
C'est bien, c'est avec Anconina. Ouais.
Je peux le regarder plusieurs fois de suite parce que chaque fois, je vois des détails qui sont plaisants et qui m'avaient échappé. Et surtout, chaque personnage a une histoire entière. Voilà.
Il y en a un qu'on oublie souvent, mais qui est extraordinaire. C'est l'aventure.
Mais bien sûr.
Alors, on va parler des musiques de films que vous avez fait là. Que la lumière soit, Les Amants de Rivière Rouge.
Alors, il y a nos réalisateurs qui sont des réalisateurs fétiches et fidèles. Bon, que la lumière soit, c'est un film d'Arthur Joffé avec lequel on a fait 4 films et qui est vraiment un fou furieux, mais absolument génial.
Oui.
Les Amants de Rivière Rouge, c'est un film d'Yves Boisset avec lequel on a beaucoup, beaucoup travaillé. On a fait tous ces films on a fait 27 films avec lui. Donc, des grands films, l'affaire Seznec, l'affaire Dreyfus, l'affaire Salengro, vraiment des films qui ont marqué l'histoire de la télévision.
Le pantalon, qui est un film. Oui. Sur la guerre 14-18, un des plus grands films de cinéma.
Sur 14-18 Des films italiens aussi, Canto di Sorrenza.
Non, ça c'est une chanson.
Vous l'avez écrite, cette chanson, Louis?
Oui, je l'ai écrite. Alors c'est bien que vous tombiez là-dessus. Canto di Sorrenza, j'ai été la première à remettre les Corses dans un grand feuilleton fait par un cinéaste qui s'appelle Vergès.
Gérard Vergès.
Et 7 films il y avait et c'était magnifique. Et on a eu un énorme succès. Et donc, on me commande la chanson. Et moi, tout de suite, il y avait des cueilleuses italiennes de jasmin. Je me suis dit, pourquoi pas faire une chanson avec des Corses. une voix terrienne, les voix terriennes comme ça, les voix de mater. J'ai fait un casting. Il y avait Voci di Corsica qui venait d'avoir un grand, oui. grand prix. Je les ai écoutées et grâce à Noël et Nicolai, elle me les a présentées et tout de suite, évidemment, j'adorais
Petru,
tout ça. Alors, ça a été formidable. J'ai enregistré les voix corses dans mon église à Sarri d'Orcine et je suis revenue pour enregistrer le leader.
Mais tu voulais dire une chose, c'est que tu as mis deux voix de femmes dans le...
Ah oui, j'ai mis deux voix magnifiques, Jackie Michael et Marie-Ange Géroni.
Très très belle voix.
Voilà. Quand je suis revenue, on me dit, oui c'est bien, mais ça n'ira peut-être pas avec...
Avec Hélène Segarra.
Hélène Segarra.
Au départ. Ah oui, d'accord.
C'est qui chantait très bien. Qui commençait à cartonner, elle avait signé un disque.
Mais moi quand je suis partie, je lui ai dit, tu sais Hélène...
Belle voix.
Je crois qu'avec les voix corses, ta voix ne tiendra pas. Et quand je suis rentrée, je lui ai fait écouter. Elle me dit, tu as raison. C'était douloureux parce qu'elle a chanté très bien. Et puis après, je me suis rabattue, mais tout de suite, comme ça, par instinct, sur Julie. Et ça a été formidable.
Julie
Pietri. On est venue la présenter ici, d'ailleurs.
Hein. Qui est venue encore.
Oui, alors, on est venue présenter la chanson à Bastia.
Robinson Crusoe, Le dialogue des Carmélites, Femme de voyou, c'est un film de qui ?
Femme de voyou, c'est un film de Georges Bertchansky. Oui. On a mis cette musique-là parce qu'en fait, c'est une musique qui ne nous ressemble pas beaucoup, c'est une musique jazz. Donc on a fait un peu écrit dans tous les domaines, parce que Le dialogue des Carmélites, c'est une espèce de messe qu'on avait faite pour les Carmélites. Et on a eu la chance d'avoir l'orchestre de Radio France, les chœurs de Radio France, c'était pour la Comédie française. C'était une immense mise en scène avec des comédiens absolument fabuleux. Et ça a été une aventure. C'était la première grande musique de scène que nous avons faite. C'était Gilles Desbourdet qui a fait la mise en scène.
Après, on a fait
toutes ces pièces.
Le théâtre est très très important pour nous et surtout pour moi. Parce que le théâtre, c'est d'abord, on a les moyens. Et la musique, quand elle est symphonique, il faut qu'elle ait des moyens, puisque l'orchestre coûte cher, évidemment. Hein. La musique de scène nous permet d'être confirmés dans notre état de compositeur. Nous sommes des compositeurs, et pas seulement des compositeurs de musique de film ou de scène. Le compositeur doit tout savoir écrire. Oui. Et avec Jean-Claude, nous sommes en milieu d'apprentissage. Mais vous allez voir quand vous allez écouter.
C'est mignon, ça, en milieu d'apprentissage.
Oui, ça n'a jamais terminé.
Oui, c'est jamais fini. C'est jamais fini.
Et puis surtout parce que... On croit que avec l'indépendance que nous avons, moi je suis une militante de la musique, c'est-à-dire que j'ai imposé à Jean-Claude
de ne pas avoir
d'agent pour être complètement libre. Alors évidemment, tout le monde est venu nous chercher, tous les grands agents, mais quand je dis tout le monde, tout le monde. Chaque fois je disais, est-ce que nous aurons la possibilité de pouvoir dire non ? Quand c'était pas possible, donc on arrêtait. Et oui. C'était une époque, on a des enfants, on avait des parents qui étaient fatigués. Je ne voulais pas m'éloigner de la Corse, parce qu'on a signé pour les États-Unis. Ah oui, 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 on a...
Aux États-Unis, qu'est-ce que...
C'était un film, comment elle s'appelait, cette actrice, qui a fait Emmanuel.
C'était Sylvia Christel.
On est allé, la partie musicale, c'était en Espagne, et quand le contrat est arrivé, j'étais épouvantée. C'était pas un film qu'il fallait faire, c'était quatre. On est retourné. Vous cassez le contrat. Il fallait partir aux États-Unis. Il restait voilà, pour les quatre films. Et ça, avec Jean-Claude, on a eu ce luxe de pouvoir diriger notre carrière. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, nous sommes un couple. La musique tout petit peu devant quand même, la musique.
Oui. Alors comment on travaille ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Comment on travaille sur la musique d'un film ? On visionne le film avant.
Angélique avait une particularité, c'est qu'elle elle savait lire. Elle lisait les scénarios. Moi, j'avais le choc des images. Et donc, Angélique se faisait déjà une idée de la musique d'après le scénario. Après, bon, on recevait le film, on voyait toutes les étapes du film, ce qu'on appelle l'ours. Le premier montage, et après, bon, on travaille avec le réalisateur sur table de montage. Et bon. Mais Angélique avait déjà une idée. Je me souviens, on a fait un film d'ailleurs qui était tourné à Bastia.
Deux
téléfilms. C'était les Déracinés, avec Georges Corafa, Jean-Yann.
Il y avait beaucoup de monde.
Et c'était tourné sur la place du marché. Et on vient sur le tournage et Angélique avait son scénario dans la main et elle était assise par terre. Bon, vous voyez les prises avec les comédiens et je voyais qu'elle écrivait des choses. Le temps passe, on écrit la musique est enregistrée, montée sur le film, mixée, etc. Et peut-être un an après, je classe les scénarios, je les range, et je tombe sur le scénario des Déracinés. Et là, je tombe sur le scénario d'Angélique, et je vois qu'elle écrit des choses. Je lis. En fait, le jour du tournage, elle avait fait la description exacte de ce qu'allait être la musique, c'est-à-dire les instruments utilisés, le type de musique. Enfin, elle avait déjà une idée très très précise
de
ce qu'allait être la musique.
Oui, oui, oui. Mais ce n'est pas étonnant parce que, vous savez, on ne parle jamais des scénaristes. C'est très rare que les scénaristes aient des prix d'ailleurs. Les scénaristes et les musiciens, les compositeurs, pas musiciens, les compositeurs, sont des alter-égos. C'est-à-dire que si on était présenté à l'avance, on pourrait même changer quelquefois les petits défauts d'un film. Parce que la musique, moi je considère que notre musique, en tout cas, dialogue avec l'image, scénarise les moments qui sont défectueux, je dirais la chirurgie esthétique musicale. Voilà. Pour moi, la Bible, ça s'appelle comme ça, pour moi, le scénario. Quand je lis, je me fais le film qui est quelquefois plus beau que le résultat. C'est dommage que les scénaristes et les compositeurs ne se rencontrent pas si souvent.
C'est vrai ?
Et
vous ne rencontrez pas ?
Non seulement on ne se rencontre pas, mais on a eu un film qu'on a fait il y a 2 ans. Le producteur a eu l'idée de nous faire participer à la première lecture avec les comédiens. C'est-à-dire que c'est la première fois que les comédiens
d'accord.
se sont rencontrés.
Vous étiez
utilisés autour d'une
lecture,
table.
Voilà.
Ça se fait jamais.
Et
ouais.
Pour nous, c'est très important parce que ça nous donne le son. Les voix des comédiens, c'est comme un instrument.
Oui.
Les voix des comédiens. Oui, oui. Bon. La musique est écrite souvent en fonction de la voix des comédiens. Il y a des comédiens qui ont des voix blanches, par exemple, et il y a certains instruments qu'on peut pas utiliser. Si on les utilise sous leur voix est abîmée parce que là, ça mange les. Donc c'est vraiment très important.
C'est important, ça, de le savoir.
Vous voyez, votre étonnement me fait dire constamment la même chose. C'est-à-dire que les gens ne savent pas comment nous travaillons. Sans un scénario, le film n'existe pas. Sans l'écrivain, sans le dramaturge, la pièce de théâtre n'existe pas. Donc c'est lui qu'on doit d'abord féliciter. C'est lui qu'on doit applaudir. Les metteurs en scène après, quand ils sont metteurs en scène et scénaristes, c'est formidable. Mais le metteur en scène devrait ne pas l'oublier, ça. Et quant aux compositeurs, je pense que notre devoir actuellement, Jean-Claude et moi, puisque nous sommes en milieu d'apprentissage, c'est de transmettre cette chose. C'est-à-dire que le compositeur est aussi fragile que celui qui rêve et qui écrit des histoires.
C'est joli.
Donc, quand on a la chance de trouver quelqu'un de doué en poésie musicale, il faut lui donner tous les moyens. Actuellement, la musique électronique tue un peu ça. Je n'ai rien contre, mais le vrai compositeur, c'est celui qui sait écrire pour orchestre.
Ou pour des instruments solistes.
Oui, mais bien sûr.
Mais
dans l'orchestre,
mais
il y a
en
tous
tout
les
cas,
instruments.
Pas un compositeur qui fait ce qu'on appelle des nappes, c'est-à-dire des sons électroacoustiques qui peuvent marcher sur certains films, mais qui ne sont jamais à la hauteur d'un Ennio Morricone.
Je voulais vous en parler d'Ennio Morricone pour conclure. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Parce qu'on dit que c'est lui souvent qui proposait d'abord la musique. Et puis que le film s'adaptait à la musique. Enfin, il y avait une espèce d'échange avec
C'est le maestro des
maîtres. C'est maestros.
De tous les maîtres, c'est lui le maestro. Parce qu'il sait tout écrire. Et en plus, il a ce côté qui semble fragile, mais il ne l'est pas. Les compositeurs, là, on est obligé de parler, mais ce n'est pas notre truc. C'est notre musique qui chante et qui parle pour nous. Et Ennio, il a cette poésie qui lui fait avoir toutes les audaces. Et surtout, c'est un très, très grand mélodiste. Il ne l'a jamais oublié. C'est une merveille. Et il s'est souvent disputé. Il s'est souvent lui aussi braqué. Mais c'est ça, avoir cette force de caractère qui fait que,
De persuasion.
De persuasion, bien sûr. Et puis, on n'est pas là pour avoir la première place, on n'est pas là pour faire de l'argent, on est là juste pour essayer d'exprimer tout ce qui nous angoisse et de faire sortir ces choses, ces questions qui nous interrogent, nous, humainement, de les faire sortir avec beauté, avec douceur, avec... Mmh. Voilà, c'est comme ça.
Une émission poétique et musicale. À bientôt, Jean-Claude. À bientôt.